Imaginons un instant qu'on se tienne devant les plans architecturaux d'une immense cathédrale.
D'accord, je vois le genre.
Ouais, tout y est d'une précision mathématique vertigineuse. Les lignes sont pures, les calculs de répartition des charges sont absolument parfaits.
Sur le papier, c'est majestueux, c'est l'ordre absolu.
C'est ça. Mais le truc, c'est que l'architecture ne s'arrête pas au papier. La théorie pure doit inévitablement se frotter au monde réel.
Et ce fossé entre la pureté du dessin et la réalité un peu crasseuse du chantier, la boue, le bruit des marteaux, les compromis de dernière minute...
Les imprévus, quoi.
Voilà, les imprévus. Eh bien, c'est exactement ce que le docteur Craig Kinner essaye de combler dans sa lecture d'un texte antique fondamental, l'Épître aux Romains.
Et c'est le sujet de notre plongée d'aujourd'hui. On s'immerge dans une de ses conférences où il décortique la charnière entre les chapitres 10 et 12.
Tout à fait. Et l'objectif de cette analyse approfondie, pour ceux qui écoutent, c'est vraiment de comprendre comment ce texte réussit l'exploit de jeter un pont entre une théologie extrêmement complexe, notre fameux plan de cathédrale, et la vie quotidienne.
L'éthique de tous les jours. Comment des concepts cosmiques abstraits se traduisent par des actions concrètes sur le terrain.
Mais avant d'entrer dans la mécanique du texte, il y a un obstacle majeur que la source met en lumière.
Ah oui, notre obsession moderne pour les étiquettes.
Exactement. Le conférencier explique que face à un texte aussi dense, le réflexe naturel, c'est de vouloir le ranger dans une case idéologique bien précise.
Ah oui, on veut simplifier.
C'est humain, tu sais. On lui demande constamment de choisir un camp. Est-ce qu'il adopte une lecture calviniste qui mettrait tout l'accent sur la souveraineté absolue de Dieu, ou bien une lecture arminienne qui insiste plus sur le libre arbitre.
Ou alors on lui demande s'il est du côté de la théologie de l'Alliance, avec cette idée d'un grand contrat continu dans l'histoire, ou du dispensationalisme.
Ce qui découpe l'histoire en aires distinctes, oui. Mais ce que notre source rapporte de manière strictement neutre, c'est un refus total de toutes ces boîtes préfabriquées.
Le but n'est pas de valider un système de pensée moderne. L'idée, c'est de laisser le texte antique respirer.
Même s'il déborde de nos cadres.
Surtout s'il déborde, ouais. Si le texte contredit un système construit des siècles plus tard, c'est au système de s'élargir.
Pas au texte d'être amputé. Et ce texte, justement, avant de parler de règles de vie, il culmine d'abord dans une explosion poétique à la fin du chapitre 11, ce qu'on appelle une doxologie.
Et l'orateur décrit ça comme une véritable rhétorique du sublime.
C'est le terme. L'auteur emprunte des images à Ésaïe et à Job pour décrire l'indescriptible, tu vois, la souveraineté divine.
Et ça se termine par cette formule hyper connue, « De lui, par lui et pour lui sont toutes choses ».
Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre ce que ça implique pour les anciens.
Ouais, parce que ça sonne très poétique, mais concrètement.
Concrètement, ça renvoie à la conception antique des causes multiples. Aristote avait posé les bases. Dans le monde antique, la causalité, c'est pas juste une ligne droite de A à B.
Il y a plusieurs niveaux qui opèrent en même temps.
Voilà. Le « de lui », c'est la cause originelle, la source créatrice. Le « par lui », c'est l'agence médiatrice, la force qui réalise la chose matériellement. Et le « pour lui », c'est la cause téléologique, la finalité ultime.
D'accord. Attends, pour rendre ça un peu plus visuel pour le public, c'est comme un maître architecte qui conçoit le plan originel de la maison, ça c'est le « de lui ».
Ouais, très bonne image.
Ensuite, au lieu de juste déléguer, il met un casque de chantier, il descend sur le terrain et dirige les pelleteuses. Ça c'est le « par lui ».
Et à la fin ?
Et à la fin, quand la maison est finie, il s'avère qu'il est aussi le propriétaire qui va l'habiter. Ça, c'est le « pour lui ». Concepteur, exécuteur et bénéficiaire final, tout en un.
Ton analogie est parfaite, mais elle nous amène à un virage très sec dans le texte.
Ah bon?
Ben oui. Sachant que cet architecte a un plan si grandiose, quelle doit être la réponse humaine face à ça? On passe de la contemplation cosmique à ce qu'on fait de son corps le lundi matin.
Le fameux chapitre 12. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Il y a un concept de développement moral qui est super intéressant.
C'est-à-dire?
Obéir par peur de la punition, genre « si je vole, je vais me faire foudroyer », c'est un stade infantile de la moralité selon l'orateur. Le but, c'est d'agir par altruisme, par nouvelle identité.
On fait le bien parce que ça reflète qui on est devenu, pas pour éviter un coup de bâton.
Exactement. Et l'image que le texte utilise, c'est d'offrir son propre corps comme un sacrifice vivant.
Une expression qui pèse lourd. Ça montre que cette spiritualité, c'est pas juste de la méditation dans son salon. Ça s'incarne dans la fatigue physique, le temps passé.
Mais il y a quand même un immense paradoxe ici. Je veux dire, comment un sacrifice peut-il être vivant ?
C'est vrai que ça coince un peu.
Dans l'Antiquité, un sacrifice, c'est la mort. On égorge un animal, on brûle des céréales. Le but, c'est la destruction. Donc, un sacrifice vivant, c'est un oxymore total. Comment ça fonctionne concrètement?
Ce paradoxe, c'est tout le génie de la formule. Le mot grec clé ici, c'est « logokos ». On le traduit par « sacrifice rationnel » ou « spirituel ».
Rationnel, comme la raison.
Tout à fait. Il faut regarder du côté des philosophes de l'époque, les stoïciens. Ils critiquaient les superstitions des masses. Tuer une chèvre pour calmer un dieu, pour eux, c'était irrationnel.
Ils prenaient une adoration basée sur la raison, le logos.
Exactement. Et le texte biblique s'empare de ce langage. L'esprit et le corps sont intimement liés. L'adoration véritable, c'est plus la fin brutale d'une vie sur un autel. C'est la consécration active et quotidienne d'une vie.
Guidée par la raison. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si ce sacrifice exige de la raison, comment cette intelligence doit-elle fonctionner au quotidien?
Le texte dit qu'il faut refuser de se conformer à l'ère actuelle, l'aïon.
Mais l'ère du temps, quoi. Mais concrètement, à quoi ressemble ce renouvellement de l'intelligence?
La source donne un exemple très parlant. L'anecdote de John, un étudiant de première année. Kinner traversait une période difficile et il est tombé sur ce jeune homme qui était complètement brisé.
Brisé par quoi?
Il venait de rater un examen de maths. Sa vision du monde était prisonnière de l'échec immédiat de cette ère présente. Kinner lui a demandé « John, qu'est-ce qui est plus grand? Un million ou un… »
Mathématiquement, la réponse est vite trouvée.
Oui, mais l'idée c'était de confronter l'éternité, le million, à une seule année ratée, le 1. Et cette bascule a eu un effet incroyable.
Ah oui, l'étudiant a fini par convertir une quarantaine de membres de sa fraternité.
Et pas n'importe laquelle, la plus excentrique du campus. John est devenu celui qui restait sobre et conduisait tout le monde aux urgences après les soirées.
C'est fou! Ça, c'est un vrai renouvellement de l'intelligence.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'orateur donne une statistique télévisuelle qui donne le vertige.
Vas-y, je t'écoute.
Imagine 40 millions de personnes qui décident de prendre les 3 à 4 heures qu'elles passent devant la télé chaque jour et de les consacrer à leur communauté.
Au lieu de regarder un écran, le potentiel de transformation sociale est juste dingue.
Renouveler son esprit, c'est évaluer ses choix d'aujourd'hui à la lumière de ce qui comptera dans un million d'années.
D'accord. Mais au quotidien, quand on doit prendre des décisions concrètes, des zones grises, comment on discerne cette fameuse volonté divine? Le texte dit qu'elle est bonne, agréable et parfaite.
Et là, il y a un piège d'interprétation courant. On imagine souvent trois niveaux distincts.
Genre la médaille de bronze pour la volonté bonne, l'argent pour agréable et l'or pour la parfaite.
C'est ça. Mais l'orateur corrige cette idée. En grec, c'est le mot « télios ». Dans la philosophie antique, ce ne sont pas trois niveaux. Ce sont des synonymes pour évaluer la meilleure action possible dans une situation donnée.
C'est un peu comme trois filtres sur un objectif d'appareil photo.
Comment ça?
Tu ne choisis pas entre le premier ou le troisième filtre. Il faut aligner les trois en même temps pour que l'image devienne nette.
C'est une super image. Et le mécanisme de ce discernement fonctionne sur deux moteurs, selon la source.
L'intuition spirituelle et la raison.
Oui. Pour l'intuition, il raconte l'histoire de son beau-frère, M. Muzonga. En pleine guerre, il marche et soudain, poussé par un pressentiment irrésistible, sans rien voir de suspect, il fait demi-tour.
Juste un instinct viscéral.
Voilà. Et quelques instants plus tard, le marché vers lequel il allait devient le théâtre d'une fusillade. Ça, c'est l'intuition.
Mais la source insiste aussi sur le fait que la sagesse et la raison pure jouent un rôle tout aussi grand. L'orateur donne l'exemple de son propre choix de poste d'enseignant.
Oui, il avait des doutes.
Et il a combiné plusieurs choses. Un rêve avec un collègue théologien, Ben Witherington. Il a ensuite appelé ce vrai Ben par simple bon sens pratique. Et il a aussi pris en compte la prière de sa femme.
Quand la situation n'est pas claire, on recourt à la sagesse pratique.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on est en groupe? Parce que ce discernement, on ne le fait pas tout seul dans son coin.
Ça nous plonge au cœur des interactions en communauté, oui, avec l'idée de la mesure de foi.
Ça, c'est un terme qui peut faire peur. On a l'impression que c'est un système de classe, ceux qui ont beaucoup de foi et ceux qui en ont peu.
Pas du tout. Ce concept ne pousse ni à l'orgueil, ni à se rabaisser. C'est la complémentarité des dons.
Comme Kinner, qui a le don d'enseigner, et sa femme, qui a un don pour écouter Dieu.
Exactement. Et ça s'exprime dans la parénèse, les exhortations du texte, notamment l'amour fraternel, la Philadelphie.
Et dans la culture gréco-romaine, c'était une vraie bombe.
Oh que oui! C'était une culture entièrement basée sur la compétition pour l'honneur et l'évitement de la honte.
Tu écrasais les autres pour monter.
Voilà. Donc dire à des citoyens de s'honorer mutuellement, de s'effacer pour l'autre, ça bouleversait complètement l'ordre social de l'Antiquité.
Cette volonté de lier la spiritualité à l'action sociale, ça a souvent créé des tensions. La source aborde une controverse historique très intéressante, et d'ailleurs, rappelons qu'on rapporte ça de manière totalement neutre.
Tu parles de la division aux États-Unis au début du XXe siècle ?
Oui, la fracture entre les fondamentalistes et les modernistes. D'un côté, on avait un groupe axé sur le surnaturel et la doctrine stricte.
Et de l'autre, un groupe axé sur l'évangile social, l'action sur le terrain.
C'est ça. Et le conférencier rapporte de manière impartiale que des figures comme Billy Graham ou les églises afro-américaines, ainsi que la doctrine sociale catholique, ont démontré qu'on ne peut pas séparer les deux. Le texte exige de maintenir la doctrine et l'action ensemble.
Et une des actions les plus cruciales mentionnées, c'est l'hospitalité.
Dans le monde antique, c'était une question de survie. Les routes étaient hyper dangereuses.
Refuser l'hospitalité, c'était presque une condamnation à mort pour le voyageur. Et ce n'est pas qu'un truc de l'Antiquité. L'orateur raconte comment sa propre femme a été protégée par la famille Moukass au Cameroun pendant la guerre.
Une famille qui a risqué sa vie pour l'accueillir.
L'hospitalité poussée à son paroxysme.
Donc on voit bien comment ça marche au sein d'une communauté soudée. Mais que se passe-t-il face à ceux de l'extérieur? Ou pire, face aux ennemis?
L'éthique de la compassion du texte est radicale. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent.
La source cite cette tradition rabbinique, non?
Oui, si tu étudies la Torah, l'acte suprême est qu'une procession de mariage ou des funérailles passe dans la rue, tu dois arrêter ton étude et les rejoindre.
La compassion avant l'étude. Mais cela soulève une question importante. Face aux vrais ennemis, aux oppresseurs, on fait quoi?
L'orateur introduit un contraste frappant décrit dans l'évangile de Luc pour expliquer ça.
Auguste contre les bergers?
C'est ça. D'un côté, l'empereur Auguste, l'homme le plus puissant du monde, proclamé sauveur du monde.
Avec ses temples et sa fameuse Pax Romana.
Une paix souvent fictive et brutale, on est d'accord. Et de l'autre côté, la naissance dans une mangeoire d'animaux.
Annoncée à des bergers, des gens considérés comme des marginaux, la classe inférieure.
Le contraste est total. Le texte insiste sur le fait que la présence divine se trouve parmi les gens humbles et brisés, pas dans les palais de ceux qui écrasent les autres.
Donc, la stratégie face à l'ennemi, c'est quoi?
Vaincre le mal par le bien. Ne pas utiliser les armes de l'Empire pour combattre l'Empire.
Ouah ! Si on résume un peu le voyage qu'on vient de faire lors de cette plongée, c'est assez incroyable.
On a couvert beaucoup de terrain, oui.
On est parti de la théologie la plus majestueuse, la pensée infinie de l'architecte, pour redescendre vers la réalité la plus brute.
Sacrifier son ego.
Utiliser sa raison, ouvrir sa porte aux réfugiés, s'asseoir avec les marginaux. Ces sources antiques offrent vraiment une méthodologie de vie complète.
C'est pas juste de la théorie en l'air.
Ce qui m'amène à une pensée finale, un truc à ruminer pour ceux qui nous écoutent. On a parlé de ce renouvellement de l'intelligence, ce fameux filtre de l'éternité pour évaluer nos frustrations quotidiennes.
Le million contre le un.
Exactement. Eh bien, comment est-ce que ça pourrait transformer notre perception dès demain matin? Si on appliquait ce filtre de l'éternité en regardant nos adversaires idéologiques ou politiques les plus féroces?
C'est une vraie question.
Est-ce que cette perspective pourrait, au final, dissoudre les hostilités qui nous semblent aujourd'hui totalement insurmontables? On vous laisse y réfléchir.